Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine maintenant pour un nouveau podcast. Et je suis aujourd'hui avec un invité très prestigieux. Je suis avec Camille Lacour. Salut Camille.
Salut à toutes et à tous.
Je suis très heureux de recevoir Camille parce que ça faisait longtemps que je voulais recevoir un sportif de haut niveau. J'en ai pas reçu sur ma chaîne encore. Moi je suis un gros sportif, mais genre loisir, tu vois. Et je sais que dans le sport, il y a énormément d'enjeux motivationnels. Il y a énormément d'enjeux de vie. Il y a énormément de trucs dont les gens peuvent s'inspirer pour leur vie.
Carrément. Et totalement ça. Le sport de haut niveau, je pense que c'est une vie plus courte que la vraie vie, que j'aime appeler comme ça. Il y a exactement les mêmes problématiques, peut-être même en plus violent dans le négatif et plus euphorique dans le positif. Mais sinon, c'est tout est courté, tout est plus violent, mais c'est la même philosophie de vie que quelqu'un de normal, quoi. On a des réussites, on a des échecs, on doit faire des choix, on doit avancer, on doit travailler, mais tout est pareil.
Exactement. Plus violent et je trouve aussi peut-être plus simplifié. C'est genre, c'est victoire, défaite. Dans la vie, il y a un peu plus de nuances, peut-être.
Peut-être, il y a peut-être plus de choix. Une fois que nous, on a tout décidé, on a pris notre entraîneur, on a pris notre préparateur physique, notre préparateur mental, on a pris tout notre staff, en fait. Sur un plan, on met comment on va s'entraîner, comment on va progresser. Et puis après, il y a juste à faire, en fait. Il y a juste à bosser. Et puis, mais en fait, ce juste à bosser, c'est toute la différence entre quelqu'un qui arrive à gagner et quelqu'un qui est juste bon. Enfin, c'est vrai que dans la vie, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu avec des choix différents, aussi des gens avec qui on travaille qui sont pas aussi motivés que nous. Donc, ça peut être des freins, alors que dans le sport, l'avantage, c'est qu'on veut tous faire du haut niveau, donc on est tous aussi motivés, on a tous envie de vraiment bosser, d'arriver à l'excellence, et ça crée une spirale vertueuse, c'est une tuerie.
On va en parler, les amis, aujourd'hui, on va parler de se relever après un échec. C'est une problématique hyper importante dans le sport, puisque des échecs, c'est sûr qu'on va en connaître dans une carrière.
Alors moi, j'aime bien dire que l'échec, c'est le début de la réussite. C'est un peu américanisé, mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir une petite fille de 11 ans. Et aujourd'hui, on fait les exercices de maths, de physique, de chimie. Et des fois, elle me dit, j'y arrive pas, ça me saoule et tout. Je dis, mais c'est normal d'échouer, en fait. Et j'aime bien faire maintenant le parallèle avec le sport, parce que j'ai appris avec elle. Bah, l'échec, ça sert à réussir, en fait. Et les devoirs de maths, il n'y a rien de plus simple pour montrer cet exemple que bah, d'abord, on échoue sur les multiplications. D'abord, on comprend pas pourquoi il faut décaler le chiffre. Je sais pas si on se rappelle quand on pose les multiplications, je m'y suis remis là.
C'est dur, alors que c'est des trucs vraiment simples.
C'est ça. Et voilà, les divisions et tout reposé. Et en fait, au début, bah, c'est normal, il y a des accros, elle fait des erreurs, et après, à un moment donné, bah, c'est acquis. Et les seules erreurs qu'il peut y avoir, c'est des tourderies. Mais je trouve que c'est exactement pareil dans le sport, en fait. On peut pas y arriver du premier coup, il faut apprendre. Nous, l'avantage, c'est qu'on apprend pendant les entraînements, et c'est un peu à l'image pour reprendre l'exemple de ma fille, ben on apprend pendant les exercices, en fait, et le jour du devoir, il faut être bon. Sauf que bon, il y a plus d'éléments que pour des multiplications ou des divisions.
J'aime bien cette idée de l'éducation en parallèle avec la manière dont tu vois dont on a pratiqué le sport dans toute sa vie. Moi, ma maman, elle est championne de tennis, et de la même manière, j'ai été éduqué par le sport. Tu vois ce que je veux dire, avec des parallèles constants entre le sport et la vraie vie, tu vois. Mmh. Et je pense que le sport, c'est vraiment une manière jeune d'acquérir plein de valeurs et plein de, comment dire, de mécanismes de vie.
Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a la base de toute réussite, c'est le travail. Et puis bah, dans le sport, s'il n'y a pas de travail, on peut avoir tout le talent qu'on veut. Alors il y a des sports où c'est un peu différent. Enfin, j'aime bien parler du foot parce que c'est vrai qu'il y a du travail évidemment pour y arriver, mais c'est moins qu'un sport individuel.
Ouais, j'étais hyper surpris là de voir des footballeurs faire la teuf assez régulièrement à Paris. Je suis choqué, je me dis c'est pas comme ça que je voyais un sportif professionnel.
C'est ça, bah c'est un peu le problème du foot, c'est un peu le problème de, alors je vais peut-être me faire lyncher, mais du PSG, et puis j'ai rien contre ça. Alors moi je suis de Marseille, donc c'est vrai que c'est pas mon club de cœur Paris, mais j'adore le foot, donc j'adore le sport, et puis bah le Paris, quand ça joue bien, c'est quand même magnifique à voir. Ouais. Mais je pense qu'ils ont pas réussi à créer encore un club, et je pense que c'est ça qui gêne. Enfin, pour reprendre l'exemple de Marseille, à l'époque, c'est Tapie qui vire Cantona alors que c'est le meilleur joueur du monde simplement parce qu'il a jeté son maillot. Et Tapie, il dit à Marseille, on jette pas le maillot. Et en fait, ça crée un club, en fait, ça crée une histoire, ça crée quelque chose. Alors, ça peut être Marseille, ça peut être Saint-Etienne, ça peut être Paris un jour. Mais pour l'instant, je trouve que les joueurs sont trop en freestyle, en fait. Ils sont là, ils kiffent.
C'est des restas, c'est la Dream Team, quoi.
Ouais, après, bon, bah, si ça marche, pourquoi pas. Mais quand on voit un peu ce que Jordan a fait dans le basket, en fait, Jordan, ce qu'il a réussi à faire, ça a été le premier mec dans un sport collectif à mettre une rigueur de sport individuel. Et les six qui étaient sur le parquet, c'était des acharnés de boulot, et s'ils suivaient pas, ils se faisaient dégager.
C'est marrant que c'était pas le coach qui le faisait, c'était vraiment lui.
Ouais, ouais. Et puis, bah, quand on voit en plus sa série, je trouve que c'est bien fait parce qu'on voit vraiment que c'est un enfer, quoi. C'est vraiment,
Mais c'est un enfer pour lui aussi, hein.
Ah oui, en plus, il s'oblige, c'est obligé.
T'es obligé. Il s'impose les mêmes règles qu'il impose à ses coéquipiers, c'est ça qui est magnifique.
Et c'est ça, en fait, dans la vraie vie, c'est la même chose. De toute façon, si on veut exceller, si on regarde tous les chefs, les grands chefs d'entreprise qui ont réussi, ou même pas les grands chefs, mais ceux qui ont une certaine réussite, alors j'allais dire professionnelle, c'est pas forcément au niveau financier, mais en tout cas, qui ont réussi à atteindre leur objectif, bah, ils sont tous passés par énormément de boulot et par des sacrifices.
Ouais. Et je trouve qu'il y a, donc il y a ce côté hyper rigueur, discipline, etc. Parce que tu réussis pas sans, enfin sauf apparemment Mbappé et Achraf.
Ouais, mais... ça bosse quand même. Mbappé,
mais ils font quand même bien la teuf.
Ouais, Mbappé, on le voit pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'on parle de certains joueurs du foot, mais il est jamais blessé. Ça, c'est quand même quelque chose.
C'est beau. Mais je pense que c'est des surhommes.
Non, moi je pense que Mbappé, il a une vraie hygiène de vie, que c'est un vrai bosseur et que
il boit de l'alcool et tout.
Ouais, on boit tous un peu d'alcool. C'est pas
Ouais, quand même. Je crois que moi, je pensais que sportif de haut niveau, tu buvais pas du tout d'alcool.
Un sportif de haut niveau, c'est un être humain aussi.
Ouais.
Et il faut cet équilibre entre le sportif de haut niveau et un être humain épanoui. Je pense que si on est que sportif, quand on arrive sur les grandes compètes, en fait, on se dit waouh, j'ai tellement à perdre. J'ai mis ma vie toute entre parenthèses et si je gagne pas, j'ai raté ma vie, en fait.
Donc, ça, c'est un truc important. Ça fait partie de te préparer à l'échec, de quand même faire attention à kiffer pendant tout ce temps-là.
Ouais, il faut vivre.
Ouais.
Je crois que c'est vraiment important de vivre parce que sinon la pression elle devient négative, en fait. Il y a la pression positive, c'est un peu le stress, mais du bon côté de la chose, en fait. Le stress au départ c'est fait pour nous sauver la vie, hein. Quand on est face à un danger, le cœur s'accélère, notre esprit est plus vif, les muscles sont réactifs, et en fait quand on est devant un objectif qui nous plaît, il y a cette adrénaline qui monte, et si il y a trop de stress négatif, là ça nous tétanise, en fait. C'est cette boule au ventre où on a du mal à respirer, et je crois profondément que si on n'est pas épanoui, si on a fait des sacrifices avec lesquels on n'est pas en accord, ce stress il peut nous rattraper au pire moment. Et après, ça veut pas dire de boire tous les week-ends, ça veut pas dire de se mettre
à
l'envers.
Quand
on est sportif de haut niveau, notre outil de travail, notre ordinateur, c'est le corps. Donc c'est pour ça, quand je vois Mbappé jamais blessé, je suis sûr qu'il est pas de teuf tous les week-ends, quoi.
Ok,
ouais, parce que c'est pas possible.
Il l'est quand même pas tous les week-ends, j'en sais rien, mais il l'est beaucoup à Paris.
Il arrive à manier bien les deux, alors.
Ouais. Et est-ce que donc par rapport à cet aspect kiff, tu vois, faut quand même profiter de la vie, parce que sinon l'échec est dévastateur. Et je veux dire, t'as tout sacrifié et t'as rien. Est-ce que cet aspect kiff, il se retrouve aussi dans le fait de continuer à prendre du plaisir dans le sport, ou est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de plaisir, c'est juste un sacrifice et c'est juste de la souffrance?
Alors, j'aime bien le mot sacrifice parce qu'il est indispensable, il est tout le temps associé à la carrière d'un sportif de haut niveau, mais je préfère le mot choix. Alors j'utilise aussi le mot sacrifice parce que c'est quand même très difficile. Se lever le matin à 6h du matin, en fait, ça peut être un enfer. Enfin, c'est un enfer pour aller nager. Enfin, je crois que tout le monde a la même sensation, aller dans une piscine quand il fait nuit.
On s'habitue
en
vrai à 6h du matin.
Non,
ou 9h.
On s'habitue jamais.
Ah ouais,
le pire moment pour un nageur, c'est quand on est sur le bord du bassin, qu'on a la séance, et en fait on attend, on est les mains sur les genoux comme ça sur le plongeoir, et on attend pour plonger, ce moment où on bascule et on sait qu'on perd l'équilibre et qu'on plonge. Une fois qu'on est dans l'eau, ça va, mais plonger dans l'eau, c'est chaque fois une souffrance. Et donc non, il y a quand même une part de plaisir. Il y a le plaisir de progresser, d'aller chercher, de savoir pourquoi on est là aussi. On a la chance d'avoir trouvé un talent. On le travaille, on a le potentiel pour être dans les meilleurs mondiaux. Et en vérité, je pense que si on fait pas tout ça pour y arriver, après on le regrette. Et ça, c'est encore plus violent que l'échec, parce que l'échec, ça fait partie du jeu. Mais si quelques années après, on est sur un canapé en train de boire une bière avec des potes et qu'on dit « si j'avais su », c'est la pire phrase, le « si j'avais su ».
Ouais, les regrets.
C'est quelque chose qui nous hante, quoi.
Ouais, non, ça c'est sûr. Les regrets, c'est le pire. Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est, tu vois, est-ce que il faut parfois se rappeler, ok, je l'aime ce sport et je veux prendre du plaisir pendant que je le pratique. Est-ce que on garde ce côté plaisir? Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Il faut ça
aussi.
Il faut, parce que sinon c'est trop difficile. Enfin, c'est plus de 5 heures, c'est 4 à 5 heures par jour.
Genre toi, t'aimes nager?
J'aime l'eau. Ouais. J'aime être dans l'eau. J'aime essayer de dompter en fait cet élément liquide, parce qu'en fait le but de la natation, c'est de trouver un appui solide pour avancer sur un élément qui est liquide. Et par définition, c'est tout le contraire. J'adore ça, d'essayer d'avancer, de trouver des solutions dans un bassin qui est pas fait pour qu'on avance vite. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'adore le silence de l'eau. Ouais. Quand, une fois que j'ai la tête dans l'eau, j'ai vu que tu avais une planche de surf derrière nous. J'adore surfer, j'adore plonger. Aujourd'hui, j'aime plus nager, parce que j'aime bien dire, c'est comme un pilote de Formule 1, maintenant il va rouler sur un circuit avec peut-être une R6. Ouais. Avant, je roulais en Formule 1, mon corps c'était une Formule 1, aujourd'hui c'est plus le cas. Quoi. je m'emmerde assez vite, alors c'est pas dégueu, mais je m'ennuie très très vite. Donc voilà, il n'y a plus cet objectif de performance. J'aime toujours faire du sport, de l'activité physique, mais plus dans un bassin, parce que je suis allé trop loin dans la perf.
Bien sûr. Mais c'est marrant d'entendre ça, parce que tu vois, par exemple, je peux te prendre un exemple bateau, mais un Gaël Monfils, on a toujours eu l'impression que dans le tennis, tu vois, en jouant, le mec s'amuse, tu vois, il s'amuse avec le public, il s'amuse en jouant. La natation, on voit un peu moins ça comme un sport jeu peut-être, tu vois.
Même la langue française le sait, on joue au tennis, on joue au foot, on fait de la natation. Même la langue française savait que c'était un sport besogneux.
Exactement. Et c'est marrant d'entendre que toi, tu vas le dire en « j'aime l'eau ». J'aime le fait de trouver la solution pour avancer plus vite, pour aiguiser la performance et tout. Et en fait, tu vas aller quand même trouver le plaisir dans un sport qui n'est pas jeu.
On y tombe dedans. Je pense qu'il y a l'effet de groupe aussi. Mais j'adorais cette sensation de compétition aussi.
Il y a ça aussi.
Voilà, c'est en fait, pour s'éclater en compétition, il faut passer par toutes ces heures d'entraînement et par tous ces sacrifices, ces choix, ces moments. Et c'est ça, en fait. Si on arrive en compétition et qu'on n'a pas passé toutes ces étapes de travail, ben on se fait éclater. Donc là, il n'y a plus de plaisir. Et là, on a perdu du temps, en fait, parce que toutes les heures qu'on a passées dans une piscine, si on n'est pas à 100%, bah, à quoi ça sert? Donc voilà, il y a cette notion, on se dit, okay, on a quelque chose, on adore ça quand même, on adore cette compète, on va tout mettre en place pour vraiment s'éclater et progresser.
En plus de ça, la natation, c'est pas un sport connu pour rapporter beaucoup d'argent?
Ah non! Non, sinon je serais parti en Arabie Saoudite finir ma carrière, hein, mais clairement, ça valait pas le coup. Hein.
Ouais, non, et du coup, on pourrait se dire aussi, t'as ce côté où, bon, il y a une défaite, il y a un échec, mais c'est mon travail, je gagne très bien ma vie, je continue à m'entraîner. Et puis voilà, il y a des sports comme ça que tu fais vraiment pour la victoire et pas pour l'argent.
Je suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de sportifs qui gagnent et qui marquent leur sport pour l'argent.
D'accord.
Je crois que c'est tellement difficile que ça fait partie peut-être de leur objectif, mais pour un Novak Djokovic, par exemple, au début de sa carrière, on disait beaucoup qu'il allait sur tous les tournois pour gagner beaucoup de prizes. Je crois qu'aujourd'hui, il a dépassé ça. D'ailleurs, quand il en parle, il est vraiment sur les records, il est vraiment sur la performance, et je pense pas que l'argent puisse être un moteur aussi fort, en fait. Et puis, partout dans la vie, en fait, il faut d'abord kiffer, il faut s'épanouir, il faut réussir à avoir des objectifs vraiment concrets, parce que...
C'est quand même une consolation dans le cas de l'échec, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est vrai que j'aurais préféré après les défaites me dire j'ai pris quand même quelques millions là, que dalle. Donc c'est sûr, mais je crois que la douleur de la défaite ne vient, enfin c'est pas l'argent qui coûte.
Non, je pense aussi, mais je veux dire t'as ce côté,
on est mieux avec que sans. Hein.
Voilà, t'as ce côté quand même confort de vie où tu te dis j'ai pas tout sacrifié pour rien du tout à un moment, tu vois ce que je veux dire, je gagne quand même très bien ma vie et puis je vais réinvestir, je vais faire de nouvelles choses, etc. si jamais ça marche plus. Tandis que quand t'as tout donné pour un sport et que si jamais ça marche plus, tu vois ce que je veux dire,
on apprend autre chose et
oui, bien sûr
ça vaut le coup, franchement. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent mon enfant il est en sport études et tout, et je leur dis mais peu importe il soit champion de France, champion du monde ou champion olympique ou pas, c'est pas grave, ça va y apprendre énormément de choses. On en parlait tout à l'heure, les valeurs du sport.
Exactement.
Moi j'ai toujours mes meilleurs amis, j'étais à l'internat avec eux, ils ont pas fait de carrière dans la natation et ça reste des gens super. Il y en a un qui est ingénieur, il y en a un autre qui est coach de natation. On est vraiment dans trois mondes différents, mais on s'entend toujours bien quand on se voit, et en fait c'est parce que ces valeurs nous ont permis de devenir ce qu'on voulait être, quoi. Et je pense que c'est ça crée un homme, enfin un homme avec un H majuscule, hein, ça peut être une femme évidemment, un être humain, un bon être humain. Le sport c'est ça que ça crée, ça met des bonnes valeurs pour continuer à s'épanouir quand on est plus grand.
Exactement, les amis, mettez vos enfants dans des clubs de sport, pas forcément pour qu'ils deviennent des pros et pas forcément en leur foutant la pression, parce que bon, ça peut être dur pendant la jeunesse et ça marchera pas, mais rien que pour ce côté éducation. Moi je soutenais une association qui s'appelle Sport dans la Ville à Paris, et c'est exactement le but de cette association, c'est de donner à des gosses tu vois pas privilégiés l'opportunité de faire du sport. Mais on n'est pas dans la performance, on est dans l'apprentissage de valeurs comme la ponctualité, la rigueur, le respect, toutes ces valeurs humaines hyper importantes qui dans le sport sont je veux dire, la base.
C'est pour ça que le symbole des Jeux Olympiques, c'est la flamme olympique. La flamme olympique, ça représente la paix. Et en fait, dans le sport, on ne peut pas avoir de haine envers ses adversaires parce qu'il y a du travail, il y a du respect, il y a énormément de valeurs qui rentrent là-dedans. Et en fait, il n'y a plus de problème de couleur, il n'y a plus de problème de religion, il n'y a plus de problème d'orientation sexuelle, on n'en a rien à cirer. C'est vraiment juste du respect de la performance. Et en fait, ça, c'est des valeurs qu'on peut apprendre. Alors, j'aime bien maintenant utiliser le mot activité physique plutôt que sport, parce que le sport a une connotation de résultat.
Ouais.
Et l'activité physique, c'est vraiment se kiffer et se vider un peu l'esprit. Et je crois qu'en plus, même les enfants, de leur mettre cette gymnastique dans leur routine est vraiment importante, parce que même nous, en tant qu'adultes, il faut faire de l'activité physique. Parce que des fois, moi j'arrive, j'ai des journées super chargées, le soir je me couche, j'ai pas fait de sport, j'arrive pas à dormir alors que je suis crevé. Et le lendemain, je me dis, allez, je me bouge le cul, je vais aller courir, même une demi-heure. Et je cours pas vite, hein, je suis pas un champion de l'athlé, hein, vraiment, je me traîne avec mes grandes jambes. Mais quand j'arrive chez moi le soir, c'est de la bonne fatigue, en fait. C'est de la fatigue qui me permet de dormir. Et chaque fois, je me dis, putain, j'ai vraiment besoin de cet équilibre d'activité physique, ouais, pour être bien dans ma peau. Et en fait, on a trop tendance à l'oublier en se disant, déjà assez fatigué, mais c'est pas de la bonne fatigue, quoi.
Mmh. Moi, je fais énormément de sport, surtout quand je vais pas bien.
Et c'est vrai.
C'est vraiment mon médicament quand dans la tête, j'ai des doutes, quand je suis torturé.
Tôt aussi.
Voilà, c'est ça.
Parce que sinon, c'est trop dur.
Et c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Quand ça va pas bien, quand je l'appelle, c'est un peu c'est ma confidente, quoi.
Les mamans.
Voilà, exactement. Et elle me dit toujours, allez, secoue-toi, va courir, tac. Et en fait, tu vas courir, tu te démontes, vraiment, tu te finis, et après, ah, ça va mieux.
Ouais, et en plus, tu penses à des choses différentes.
Quand ou
tu
à cours, rien.
Ouais, voilà, en fait, t'es pas sur tes problèmes en boucle et tout, tu te concentres sur ta respiration. En fait, la première, on appelle ça maintenant la méditation. Mais
la règle de la méditation,
La méditation, c'est la respiration, en fait. C'est de réussir à caler une respiration sur un tel timing. Et en fait, la course, c'est de la méditation. Le sport, c'est de la méditation. Enfin, l'activité physique, c'est de la méditation. Et donc, juste ça, voilà, c'est pour ça que moi j'essaye de dire à tout le monde, allez-y, déjà ça enlèvera énormément de burn-out, de dépression, et ça permet de relativiser aussi sur ce qu'on est et ce qu'on veut devenir.
C'est pas mal ça, Camille Lacour, le sport c'est la méditation pour les nuls.
Écrire un bouquin.
On pourrait garder ça, et je pense qu'il y a des coachs qui pourraient dire ça. Non, c'est très bien. Donc toi, du coup, dans ta vie, est-ce qu'il y a un échec en particulier dont tu te rappelles qui a été le plus dur? Et on va parler de celui-là en particulier et de comment pris ça en main pour continuer.
Voilà. Mon plus bel échec, je dis bel parce qu'il était tellement violent que autant mettre un superlatif positif, c'était les Jeux Olympiques en 2012. Donc en 2010, je fais record d'Europe et je suis le nageur le plus rapide du monde. En 2011, c'est la même chose. Et en 2012, je fais quatrième aux Jeux. Quand je touche le mur, je vois quatrième. Alors on m'a rappelé il n'y a pas longtemps que j'étais seulement à 11 ou 12 centièmes de la deuxième place. Mon cerveau l'a oublié, en fait, tellement ça devait être violent. Et j'ai pas vérifié, donc si vous regardez, vous me direz. Mais je sais.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
J'étais pas très loin, en tout cas. Et là, quand je touche le mur, je regarde 10 fois, en fait, le panneau des résultats et je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. Quatrième, bah, on se la refait, quoi. C'est pas... Ouais. Maintenant, avec le recul, en l'analysant, je l'ai vécu, toute proportion gardée, comme un deuil. D'abord, ouais, j'étais dans le déni, quoi. C'était, c'est pas possible, ça existe pas. Je vais me réveiller, je vais me dire, putain, quel mauvais rêve. C'est bon, ce soir, demain, je nage et ça va bien se passer. Et en fait, ça a duré comme ça.
Tu peux pas l'accepter. Tu peux pas le processer. Au début, non.
Et dans les 10-15 premières minutes, tu peux pas. Et après, à un moment donné, tu passes par la presse et tout, machin, et là, ça y est, c'est fini, en fait.
Ouais.
Ça sert à rien de faire l'autruche, c'est fini, tu seras pas champion olympique. Et là, du coup, il y a la colère qui arrive, la tristesse et tout, c'est vraiment un mélange très, très, très violent. Et donc, celui-là, il dure quand même quelques temps. Et puis, moi, quand je rentre chez moi, derrière, je me dis, j'ai le droit d'être malheureux, ça fait des années que je m'entraîne pour être champion olympique, j'ai le palmarès qui me permettait d'y croire aussi, tu vois.
Bien sûr, champion du monde.
Voilà, c'est ça, donc c'est pas non plus, je suis pas 20e et d'un coup, je suis triste parce que je suis pas champion. Et j'arrive chez moi et je me dis, j'ai le droit un petit peu de me morfondre et et d'être malheureux, quoi. Donc vas-y, respire et ça va passer, quoi. Et je me dis, bon, je me laisse quelques jours comme ça, et puis en fait je m'aperçois très vite que ça fait quelques semaines que je suis dans le même mood, ouais. Que j'arrive plus à me lever le matin, que j'ai plus faim, je mange pas ce qu'il faut manger, et j'ai ce sentiment d'avoir aucune saveur à la vie, en fait. Et pourtant ma compagne de l'époque était enceinte de 8 mois, ouais. J'étais vraiment très heureux de devenir papa, mais il y avait vraiment un vide, c'était incroyable, et j'étais un robot. J'avais souvent l'impression d'être hors de mon corps, de, ouais, voir mon
pilote automatique,
ouais, grave. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va falloir se bouger. Je me voyais avec une beubarde dégueulasse, ouais, les cheveux gras, je faisais plus rien. Et donc tous les matins, tous les soirs en me couchant, je me disais, allez, demain c'est fini, je touche le fond. En fait, j'ai l'impression de tomber, et je me dis, demain je tape et je me relève, quoi. Et bah, tous les réveils, je me disais, putain, c'est toujours pas le cas. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est moi qui vais décider que le fond arrive, en fait, c'est moi qui, ouais, dois me relever. Et
il y
je
a
me
eu
suis...
un déclic à un moment, un...
ouais,
un
le déclic, c'était l'échographie, la dernière échographie de ma fille, justement, des 8 mois. Et je me dis, maintenant, il faut que tu te relèves, mais doucement. Il faut pas que.
Ouais.
Parce que c'est vrai que souvent, j'avais en tête en me disant, allez, je vais me redevenir fort et je vais, dans 4 ans, je vais les gagner, les jeux.
Mm-hmm.
Sauf que le cerveau, en fait, ça marche pas comme ça. Si tu
dis, faut savoir, les amis, que les jeux, c'est tous les 4 ans. Donc, dans une carrière de sportif qui, par définition, est limitée dans le temps, bah, on a souvent une ou deux chances, quoi.
Ouais, d'aller les 2, 3, mais, ouais, mais pas plus, quoi.
Ouais.
Et surtout, le cerveau, ouais, dans 4 ans, il peut pas se projeter, quoi. Moi, j'étais vraiment au fond du trou, et quand je me disais, dans 4 ans, je peux pas. Enfin, ouais, si là tu te dis dans 4 ans, je peux un marathon, ouais. Ouais, tu peux pas te lever en disant, ouais, je vais y arriver,
ouais.
Et donc je me suis dit, mais arrête de viser si loin, en fait. Juste demain tu te lèves à 8h30, genre, paye ton objectif super compliqué et tu vas prendre une douche, tu vas te raser et tu vas aller chercher le pain et les croissants pour avant d'aller faire l'échographie avec ta femme, quoi. Et en fait bah, c'était des petites choses comme ça, et j'aime bien maintenant dire, c'est comme si j'avais une voiture qui était en panne et que je me disais, ah, c'est trop dur de l'amener au garage, quoi. Et ouais, en fait, une fois qu'on a fait les 2-3 premiers pas, que la voiture elle commence à avancer, bah, ça s'appelle l'inertie, en fait. C'est beaucoup plus facile. Et bah, le plus dur, c'est les 2-3 premiers pas. Il faut vraiment essayer de se trouver des objectifs qui sont concrets, vraiment réalisables. Et à partir de là, on peut commencer à se relever. Donc moi, ça a été très long. Et quand j'ai compris que je commençais à faire avancer la voiture, je me suis dit, ah, ça ira de mieux en mieux. Et effectivement, ça allait de mieux en mieux. Ça met du temps, hein. Mais on sait qu'on a toujours cette cicatrice, on sait qu'on a toujours cette faiblesse, mais on sait qu'on peut avancer avec ça quand même.
Mmh. Les petits pas, par exemple, commencer à travailler, c'est se mettre au boulot quand on n'a pas forcément, quand on n'y est pas obligé, etc. Bah, par exemple, rien que allumer son ordinateur, déjà t'as fait le début, t'es lancé, ça, c'est la même inertie.
C'est comme pour le sport, pour mettre ses baskets.
Voilà, c'est exactement. Ça. Et en fait, il faut toujours se dire qu'une fois qu'on a commencé et qu'on recommence à prendre l'habitude, eh ben... ça y est, la volonté s'exerce et l'habitude vient rendre les choses plus faciles. C'est hyper dur d'aller courir pour la première fois quand on n'a pas l'habitude de le faire. Ça fait mal, c'est chiant, il fait froid, on pourrait très bien faire autre chose, regarder la télé bêtement, etc. Une fois qu'on prend petit à petit l'habitude, moi je dis souvent que la volonté, c'est le muscle le plus important de l'humain, c'est celui qui le différencie le plus de l'animal. La volonté, c'est ce qui permet de faire des choses qui sont contre son instinct de fainéantise et de juste manger et essayer d'en faire le moins possible. Et ben, la volonté, ça s'exerce comme un muscle. C'est-à-dire que j'avais une technique il y a quelques années, c'était, dès qu'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, pour exercer ma volonté, je le fais. Avant les trucs que j'ai envie de faire, même si c'est un truc qui sert à rien, qui est nul, la vaisselle, machin. Et petit à petit, la volonté, ça s'exerce.
Il y a deux écoles là-dessus. Soit on commence par la tâche la plus facile, parce que bah, on commence à faire avancer la voiture. Ouais. Soit on se dit, bah, il faut quand même être assez motivé pour commencer par la plus chiante, quoi.
Ouais.
Mais moi,
ça, c'est dans les bons moments.
Ouais. Moi, c'est vrai que bah, même toujours aujourd'hui,
ouais,
moi, la compta, c'est ma compta. Ouais, si elle m'écoute, je suis désolé pour ce que je te fais vivre. Et c'est con parce que c'est même demander des factures là où tu te fais payer, mais ça me saoule. C'est trop protocolaire et tout. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, mais il faut le faire. Et je commence jamais ma journée en faisant ça. En fait, je commence d'abord par répondre aux mails, je commence d'abord à organiser mon planning, et après je me dis, bon, par contre, tu fais une heure de trucs qui te plaît, et après tu bloques tout ça et tu fais ta compta. Et en fait, ça me permet de faire avancer et de commencer à muscler ma volonté. Et une fois que je suis parti, je me dis, allez, maintenant je me mets dans ce qui est besogneux et qui te plaît pas. Et puis en fait, il y a une phrase que j'aime bien, que j'avais entendue sur les réseaux. Il y a pas que des conneries sur les réseaux. On n'est jamais déçu d'avoir fait une activité physique ou d'avoir fait un footing. Et c'est vrai que c'est chiant de mettre ses chaussures. Moi, c'est le plus dur. Une fois que je les ai, je me dis, ah non, maintenant c'est fait, c'est bon, je peux pas reculer, quoi. Et une fois que tu rentres, jamais tu te dis, ah, j'aurais pas dû.
Ouais,
ça arrive pas.
Je pense que tu peux même presque le généraliser à toutes les choses que t'as pas envie de faire.
Exactement.
En fait, dès qu'il y a un truc que t'as pas envie de faire, tu seras plus fier de l'avoir fait qu'un truc que t'avais envie de faire, par définition.
C'est clair.
Étant donné qu'il a fallu de la volonté.
Il faut vraiment kiffer ce qu'on a fait. Et je crois que c'est vraiment important aussi de se donner des récompenses, un peu des petits bonbecs à notre cerveau, en disant, ça tu l'as, ça, ouais, tu l'as fait, ça tu l'as coché, tu
la
continues
classe
à avancer, quoi.
C'était dur, t'avais pas envie de le faire, t'as, ouais, réussi à le
et
faire,
puis, bah,
la classe.
Ça permet de continuer d'avancer, quoi.
Et donc du coup, ce qui t'a fallu, c'est un déclic. Pour toi, ça a été l'échographie, et puis de la volonté petit à petit, faire marcher ouais, petit à petit le truc. Parce que oui, c'est sûr que si tu te fixes sur un objectif qui est dans 4 ans, c'est plus de 1000 jours, c'est, ah ouais, c'est non, 1200 enfin, jours.
Même le cerveau, il peut pas, il peut pas viser.
Et du coup, au jour le jour pour
au jour le jour et des objectifs qui étaient concrets et réalisables. Mais ça marche toujours. C'est, j'ai vu un pote il y a pas très longtemps, il m'a dit, je dis comment ça va et tout, il me dit ouais, je bosse de ouf. Je dis ok, c'est cool, et c'est quoi l'idée? Il me dit ouais, je veux être riche. Je dis ok, franchement je juge pas ça, il y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi être riche? Il me dit ah, je sais pas. Je dis ouais, mais alors un jour on va se revoir dans quelques années, tu auras 3 millions sur ton compte ou 5 ou peu importe. Enfin ouais. En tant que plus la norme, plus je suis content pour lui. J'y mets en fait, tu seras pas riche parce que tu l'as pas défini ce que c'était riche.
Voilà.
Et il me dit non, mais on s'en fout et tout. Et deux jours après, il me répond 2 millions et on se fait la boum dans ma résidence secondaire. Je dis, okay, chaud.
C'est voilà, petit... là il a un objectif.
Voilà, et en fait, ça va être concret. Quand il aura ça, il se dira ok, j'ai réussi quelque chose. Et en fait, même dans tout ce cursus pour arriver à cette somme, alors peut-être qu'elle va évoluer au fur et à mesure, hein, mais tout ce cursus qui va arriver là, à chaque fois, il va se dire ok, je suis encore avancé vers mon objectif. Il va se donner cette petite récompense au cerveau qui va dire on peut encore travailler, on peut encore bosser. Alors que s'il travaille dans le vent, à mettre de l'eau dans un vase percé, il n'y arrivera jamais, quoi.
Après, pour l'argent, il y a ce côté où tu sais, c'est chiffrable. Ça veut dire à chaque euro, tu te rapproches de tes 2 millions. Tu vois.
Je crois que tout peut être concret, comme objectif.
Dans le sport, ça peut être aussi concret.
Ah, complètement. Dans le sport, ça peut être un temps, ça peut être une place, ça peut être une rigueur d'entraînement aussi. C'est pas forcément concret, mais c'est se dire je serai toujours à l'heure aux entraînements, je ferai toujours le job, je prendrai mes protéines après les séances.
À me faire mal à chaque fois.
Voilà, c'est des choses qui peuvent être très, très cadrées et il faut que ce le soit. Parce que si c'est trop volatile, on peut pas. En fait, on s'épuise. On le trouve pas.
Je sais que pendant votre préparation, vous avez non seulement des coachs préparateurs physiques, mais vous avez aussi des préparateurs mentaux. Il y a des gens qui vous accompagnent pour ça.
Ouais.
Lorsque c'est fini et que tu rentres dans cette période où il faut se relever, ils sont plus là, les préparateurs mentaux?
Ils sont là. Ils sont là, mais on est seul. En fait, quand j'aime bien beaucoup me replonger dans ces moments-là pour essayer d'analyser avec le recul, maintenant que c'est digéré. Quelqu'un qui est très visuel, donc j'ai beaucoup d'images et j'avais l'impression d'être au fond d'un gouffre, dans un truc très noir, très sombre. Et quand je levais la tête, je voyais plein de mains tendues. Donc si j'avais envie, je tendais, il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait ma compagne, il y avait mon préparateur mental, il y avait énormément de monde. Et sauf qu'on est tellement pas bien qu'on n'a pas envie de tendre la main, en fait. Il faut commencer à reprendre de l'estime de soi. Et pour reprendre de l'estime de soi, il faut se relever petit à petit. Parce que là, je me dis, je me lève la main et dans 4 ans, je suis fort. Mais c'est toujours pareil, ça marche pas. Donc il faut se reconstruire petit à petit. Et voilà, c'est un château de cartes qui tout s'est pété la gueule. Il faut d'abord ramasser toutes les cartes et ensuite on replace tout ça. On peut créer un château de cartes encore plus grand après.
Et du coup, je pense que la conclusion qu'on peut faire là-dessus, c'est que tu peux être hyper bien entouré. Tu peux avoir les préparateurs mentaux, tu peux avoir une famille qui te,
c'était le cas, hein, tout
qui te soutient.
Bien.
Tu peux être dans le meilleur moment de ta vie puisque toi, t'étais sur le point d'être papa.
De l'extérieur, c'était vraiment le cas.
Le push, la décision, elle peut venir que de toi. C'est ce que tu dis, t'es seul, ça peut venir que de toi.
Alors, je vais pas parler pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Ouais. Et il a fallu beaucoup de temps où, à un moment donné, je ne pouvais pas prendre cette décision. Et à un moment donné, c'est moi qui me suis dit, je pense que je commençais à me reconstruire un petit peu. Et c'est moi qui ai pris cette décision-là. Alors après, je parle pas, je suis pas psy, j'ai pas du tout de compétences là-dessus. C'est juste mon expérience. Ouais, moi, ça a été comme ça. Ouais. C'est à un moment donné, je me suis dit, ok, là, c'est bon, j'ai assez creusé. Je pense que je me suis assez reclus sur moi-même. Là, j'ai le droit de me relever maintenant. Je dois me relever et on va commencer tout doucement et on va voir comment ça se passe.
Ouais. Et du coup, tu te relèves.
Ouais,
après
du coup,
ça.
Je me relève. Et en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que je me relève assez vite.
Ouais.
C'est que petit à petit, ça va beaucoup mieux. Il y a un mois après, il y a les championnats d'Europe. Alors, qui se passe? Moi, j'avais fait forfait parce que je n'étais pas du tout dans l'état. J'avais même pas repris encore à nager. Et donc, je les regarde à la télé et je suis comme un lion en cage. Quoi.
Ouais.
Et ma compagne, elle me dit, mais vas-y, prends tes billets d'avion et va commenter parce qu'on m'avait proposé plusieurs fois à la télé, à la radio et tout. Et elle me dit, vas-y, par tes propres moyens, t'y vas et tu prends une accrédite avec... C'était RTL qui m'avait filé l'accrédite et j'allais là-bas commenter. Et en fait, j'avais trop envie, quoi.
Ouais.
Et quand je suis revenu, je dis, j'ai envie d'y retourner. Elle me dit, vas-y, demain, comment ça se passe? Je dis, non, je vais attendre d'abord la naissance de ma fille. Donc, c'était en octobre et je dis, je reprendrai en janvier. J'ai besoin de ces 4 mois vraiment où j'ai besoin d'avoir ces dents longues, en fait, vraiment de savoir pourquoi je veux revenir. Et quand je suis revenu en janvier, il y avait vraiment une motivation qui était poussée à l'extrême et un niveau physique qui était vraiment en dessous de tout.
Ouais.
Donc, c'était assez drôle de voir les deux différences. Mais le physique, ça revient super vite, en fait. Un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure pour aller courir. Au début, il faut être intelligent. Il faut, quand on commence la course, il faut courir, marcher, courir. Et en fait, après, on fait que de la course et commencer par des quarts d'heure, 20 minutes. C'est l'erreur que beaucoup de monde fait. Au début, ils disent, ouais, moi, je vais faire 5 bornes, 10 bornes. En fait, ça les dégoûte parce que pendant 15 jours, ils ont mal partout, au dos, au truc. Mais ouais, c'est normal. Le corps, il faut l'habituer gentiment. Et je crois qu'il faut être intelligent pour bien faire les choses. Et là, c'est ce que j'ai fait. Alors, dans l'eau, moi, je me suis mis vraiment carnage. Mais par contre, à côté, j'étais vraiment je savais que c'était dans un process pour être bon. Et puis 6 mois après, j'ai réussi à être champion du monde.
Boom. Les ouais. amis, master, voilà, masterclass.
Masterclass. Ça a pas été fastoche,
mais... Non, bien sûr, ça a certainement représenté encore énormément de sacrifices. Et puis encore, le risque de rencontrer l'échec. Et ouais. puis et c'est ça, le... Enfin, je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, dans l'éducation que tu donnes à ta fille, il faut vivre avec l'échec. L'échec, il existe autant que la réussite.
Ah, mais on va en parler de cette phrase bateau. Ce que si tu pas nous rend plus fort.
Ben voilà, c'est ça.
Et quand on est dedans, on se dit, mais quelle connerie, cette phrase. Mais une fois qu'on s'en sort, enfin, je sais que même si j'échouais au championnat du monde 6 mois après, déjà, j'avais l'excuse de me dire, je me suis préparé quand même que 6 mois, donc voilà, ça passe. Et je gagne le 50, pas le 100 mètres, là où j'avais perdu au jeu. Et surtout, j'avais tellement appris sur moi-même. J'avais appris que, bah, on pouvait descendre aussi bas. J'avais appris que,
On pouvait se relever d'aussi bas aussi.
Exactement. Et puis que j'étais pas infaillible, en fait, que ouais. j'avais des failles et que c'est pas forcément une faiblesse de se dire qu'on n'est pas incassable. C'est simplement être sûr de ses forces, quoi. Donc ouais. il faut savoir aussi qu'on peut tomber, ça peut être violent. Et puis on travaille pour justement pas que ça arrive. Et puis on s'y prépare aussi.
Mm-hmm. Et danser avec les stars.
Ah, ça... autre délire. Ah là, on parle d'échecs là, on est bien. Ah, là, danser avec les stars, non mais c'est arrivé en 2017, donc ça ça faisait des années qu'ils me le proposaient et je suis arrivé en 2017, je savais que je mettais un terme à ma carrière. À quelques semaines des championnats du monde, je me sens vraiment bien dans la piscine ouais. et tout, je me sens assez fort et je me dis je vais si tout se passe bien, je finis sur une médaille quoi. Et danser avec les stars, me relancer, et je me dis à la fin de ma carrière, quoi de mieux que me mettre en danger sur un truc où je me sais nul en fait.
Ouais.
Et parce que ça fait peur l'après carrière en fait, ouais, faut se réinventer, faut aller dans c'est vraiment sauter dans l'inconnu et je me dis je vais aller dans l'endroit où tu sais déjà que t'es nul, après t'as plus peur de rien quoi. Et c'était une expérience quand même, c'était
j'imagine.
Et puis en plus les Français sont sadiques parce qu'ils me voyaient galérer tous les samedis, c'était là on vote pour lui parce que lui franchement c'est un bosogneux, il est nul mais il bosogne, il se passe, c'était horrible.
On adore le voir le grand là.
Chaque fois j'étais au repas, j'étais là
sans mêler les pinceaux.
C'est ça. Et la couleur rouge s'allumait, celui à côté de moi, j'étais là, pourquoi pas moi, arrêtez de voter pour moi. Mais c'était une belle expérience. Le début était vraiment cool, franchement, les 4 premiers primes, où tu te sens que tu progresses, t'apprends plus vite et tout, machin. Et en fait, au bout d'un moment, t'es à fond dans la progression, et là, en fait, t'arrives à ton palier de compétences, quoi. Moi, il est très bas déjà, tu sais. Donc, en 4 semaines, j'étais à mon max, et j'étais là, waouh, chaud, là, maintenant, je subis, quoi. Parce qu'en fait, je sentais que je pouvais plus être, enfin, je peux pas être plus à l'aise que ça, j'apprenais mes pas, mais enfin, il y avait rien d'autre, quoi. Donc, mais c'était, j'ai compris les gens dans le métro qui se levaient le matin et qui font la gueule et qui se lèvent le matin pour aller faire des choses qui leur plaît pas et dans lesquelles ils sont pas bons en plus. Mmh. C'était exactement ça. Moi, je prenais le métro pour aller m'entraîner et j'étais là, quelle vie de merde, c'est pas ce que je veux faire. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris, hein, me disant je préfère entreprendre des choses dans lesquelles que j'ai envie de faire, qui vont m'épanouir, même si c'est plus dur, même si ça me prend plus d'énergie, même si je me pète la gueule, mais par contre que des choses qui me plaisent quoi.
Finalement, tu te préparais à ça dans le sens où c'est pas si anodin, c'est un truc de OK, maintenant tout va être nouveau, c'est plus la natation, c'est plus, et je sors au max de ma zone de confort.
Ouais, c'était exactement l'idée.
Je sors au max de ma zone de confort pour me préparer à la nouveauté.
Je me suis dit allez, quitte ouais. à sauter dans le vide, autant sauter de plus haut possible.
Quoi. Exactement. Et il y a ce côté drôle, bien sûr, mais c'est hyper important.
Ça se voulait pas drôle. Hein.
Ça se voulait pas drôle.
Non, non, franchement, je m'entraînais comme un chien, mais ça, c'était drôle quand même. Non, ouais, c'était pas du comique au départ. Non.
Je te pose une dernière question et puis ça va être la fin. Ça surfe bien à Marseille ?
Ah, je surfe pas à Marseille. Non, c'est vrai. Je surfais quand je nageais en vacances. Je partais souvent à Osgore, Biarritz, okay. tout ça pour surfer. Là, ça fait très longtemps. Ma fille a envie de s'y mettre maintenant. Donc, ça peut me permettre d'y
ça
retourner un peu. Après, à Marseille, il y a quelques belles vagues. Hein, des
je
fois,
sais.
Franchement,
on se moque beaucoup. On dit brise de Nice, brise de Nice.
Mais alors à Nice, je sais pas. Mais à Marseille, en tout cas, je sais qu'il y a des belles vagues parce que j'ai des potes qui y vont. Et ça ah ouais. y a même des tubes de ouf des fois, alors c'est rare, mais
à Saucet, ça prend très bien. Moi j'ai beaucoup surfé à Marseille, c'était juste pour la petite blague.
C'est Marcel de Marseille.
En tout cas, merci Camille, c'était super éclairé comme propos et super intéressant. Je suis sûr que on a tous beaucoup appris de ta galère.
C'était avec plaisir de partager ce moment particulier de ma vie. Et de toute façon, on en a tous. Hein.
Ouais, bien sûr. Mais on en a tous. Mais moi, ce que j'aime bien dans le sport, justement, c'est ce côté concret, c'est ce côté entraînement, sacrifice, victoire, défaite, toutes les valeurs qui vont avec, etc. Et je suis très content de t'avoir reçu, toi. Je savais pas quel sportif professionnel j'allais recevoir. Ça m'a fait très, très plaisir.
Mais écoute, j'en ai plein à te proposer qui sont super intéressants si ça a plu.
Eh ben, on verra ça. Vous nous dites. vous avez, si ça vous a plu, les amis,
sinon,
si ça vous a
plu.
Sinon, vous dites rien. On veut pas que ça soit un échec pour Camille. <C'est cool. rire> pas réussir à s'en relever de ça. Vous hésitez pas, vous mettez 5 étoiles au podcast si vous avez kiffé. Moi, en tout cas, je vais les mettre. Les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci Camille.
Avec plaisir.
Est-ce que, juste vite fait, est-ce que t'as un truc à une actu, un truc à promouvoir là maintenant?
Je commenterai les Jeux Olympiques pour France Télévisions. Donc voilà, on a beaucoup parlé de sport et des valeurs. Et je suis vraiment honoré d'être la voix de ce sport pendant les Jeux Olympiques. Et je vais essayer de vous passer la passion que j'ai pour ce sport à travers les commentaires. Et je suis sûr qu'en plus, avec la natation française aujourd'hui, on va aller chercher beaucoup de médailles, beaucoup de finales et beaucoup d'émotions. Donc ça va être super cool.
Et je suis sûr que tu vas le faire à la merveille parce que t'es hyper inspirant.
Merci beaucoup.
Voilà les amis, ciao. Qu'est-ce qu'on va se mettre ?